à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du jeudi 21 février 2019. Abdourahmane Diaye, Raissa Gironda à la présentation, voici les titres.
Attaque meurtrière à Goma dans l'est de la RDC, bilan 5 morts et une dizaine de personnes enlevées.
Le Niger va se doter pour la première fois d'un fichier électoral biométrique pour les scrutins présidentiels et législatifs de 2021.
Dernier jour de campagne au Nigeria avant les élections de samedi. Au Sénégal, c'est demain la fin de la campagne avant le scrutin de dimanche.
L'Afrique du Sud va extrader au Mozambique l'ex-ministre mozambicain des Finances recherché dans le cadre d'une vaste affaire de corruption.
Le Vatican a réuni des évêques du monde entier pour un sommet consacré à la lutte contre les abus sexuels.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique.
Nous reviendrons sur les arrestations au Maroc après des violences dans un stade dans la page des sports.
Mais tout d'abord, le journal.
Une audience de l'opposant camerounais Maurice Kamto et ses partisans emprisonnés qui devaient se tenir aujourd'hui a été reportée à mardi. C'est suite à une requête de leurs avocats sur la compétence d'un tribunal militaire à juger des civils. Le juge n'a pas auditionné Maurice Kamto parce qu'il a décidé d'attendre que le tribunal statue sur la contestation de sa compétence que nous avons formulée, a déclaré maître Christophe Ndong, l'un des avocats des opposants. Maurice Kamto est emprisonné depuis fin janvier à la suite des manifestations de son parti.
Toujours au Cameroun, l'ONU demande 299 millions de dollars pour un plan de réponse humanitaire en faveur de plus de 2,3 millions de personnes déplacées. Nous devons intensifier nos efforts pour répondre aux besoins des populations affectées. Beaucoup d'entre elles survivent dans des conditions déplorables, sans assistance humanitaire, a déclaré Allegra Bayoshi, la coordinatrice résidente et coordonnatrice humanitaire des Nations Unies au Cameroun.
Au Tchad, des membres du groupe Boko Haram ont tué 5 personnes et enlevé 9 autres au cours de 2 attaques de villages dans la région du lac Tchad. Ces attaques se sont produites dans la nuit de mardi à mercredi, selon Dimouya Siopebe, il est secrétaire général de la province du lac Tchad. Il a précisé que les militaires recherchaient activement depuis hier les assaillants et les personnes enlevées.
Au Nigeria, une soixantaine de criminels ont été tués dans un affrontement avec des villageois et des miliciens dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Selon un témoin, les villageois ont tué 59 des bandits et en ont perdu 7 dans le combat qui a duré près de 4 heures. L'information a été confirmée par un officier de l'armée nigériane dans le Zamfara.
Le Niger va se doter d'un fichier électoral biométrique pour les scrutins présidentiels et législatifs de 2021. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la radio publique nigérienne, Nathalie Barche.
Le contrat a été signé hier à Niamey entre le président de la commission électorale Isaac Asuna et des représentants de l'entreprise Gemalto, spécialisée dans la sécurité numérique. Cette compagnie néerlandaise a été retenue parmi 18 autres candidatures sur une offre de 19,6 milliards de francs CFA. Les listes biométriques excluent des enrôlements multiples ou fictifs et mettent en principe fin au vote multiple, apportant au processus électoral plus de sécurité et de transparence, a commenté M. Souna lors de la signature. Le président Mamadou Issoufou, au pouvoir depuis 2011, a assuré qu'il ne modifierait pas la constitution pour briguer un troisième mandat. L'opposition, dont le parti de Ama Amadou, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, refuse de siéger à la CENI et conteste le code électoral. Ama Amadou, qui vit en exil à l'étranger, risque de se voir écarté du prochain scrutin pour avoir été condamné à 1 an de prison dans une affaire de trafic international de bébés.
En République démocratique du Congo, une nouvelle tuerie à Goma, dans l'est du pays. 5 personnes tuées, 3 blessés graves et une dizaine de personnes enlevées. C'est le bilan provisoire d'une nouvelle attaque menée par des individus armés. La société civile appelle les autorités à redoubler de vigilance. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
C'est aux environs des 19h locales que des hommes armés ont surgi et commencé à tuer porte à porte avant d'amener une dizaine de personnes vers une destination non encore connue, témoignent quelques rescapés rencontrés sur place.
Ils sont arrivés ici. Ils ont dit qu'ils vont me tuer si je ne leur donne pas de l'argent. Je lui ai dit que je devais aller chercher l'argent dans la maison. C'est là que j'ai profité pour fuir. Ils sont restés avec mon père, qu'ils ont amené avec eux.
Je revenais du boulot. J'ai vu l'un d'eux, puis d'autres qui se cachaient dans l'obscurité. Et plusieurs femmes étaient aussi prises en otage à ses côtés. Directement, il a pris mon téléphone. Ils portaient presque tous des tenues comme celles des FARDC et des policiers, et d'autres étaient en civil, et parlaient le Kenya ou Rwanda.
Ce jeudi matin, 5 corps sans vie viennent d'être retrouvés dans le parc de Virunga, qui est voisin de ce quartier. Il y a moins de 5 jours, une autre attaque a coûté la vie à 8 civils dans le quartier Mugunga, voisin aussi de ce parc. La société civile locale à Goma, qui condamne cette attaque, appelle les autorités à une vigilance accrue et les exhorte à mener des enquêtes pour déterminer l'identité des assaillants et vite les mettre hors d'état de nuire. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
L'Afrique du Sud va extrader au Mozambique l'ex-ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang. Il est recherché par la justice de son pays et par celle des États-Unis dans le cadre d'une vaste affaire de corruption. Claire Morangebourg.
Arrêté fin décembre à l'aéroport de Johannesburg, Manuel Chang fait l'objet de demandes d'extradition des États-Unis et du Mozambique. Il est accusé d'avoir autorisé des entreprises publiques à contracter des prêts secrets d'un montant de 2 milliards de dollars. Monsieur Chang est également soupçonné d'avoir touché 12 millions de dollars pour avoir autorisé ces prêts lorsqu'il était ministre. Ces informations ont été rendues publiques par Lindiwe Sisulu, la ministre sud-africaine des Relations internationales. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire. L'ONG Human Rights Watch s'est étonnée à la mi-janvier de la demande d'extradition de Maputo, notant qu'avant le mandat d'arrêt lancé par les États-Unis, M. Chang n'était pas recherché chez lui. La justice américaine s'est saisie du dossier car une partie des fonds au cœur de ce vaste scandale a transité par les États-Unis.
Un conseiller de l'ancien président malgache, Eri Rajaonarimampian, a écopé d'une peine de prison ferme pour s'être approprié les meubles et le matériel d'une institution qu'il dirige. Pour sa défense, l'accusé a expliqué qu'il considérait que le mobilier n'appartenait pas à l'État et ne pouvait donc pas être récupéré après la défaite de Rajaonarimampian lors de l'élection présidentielle.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
De nombreux leaders de l'Église catholique sont réunis au Vatican. Le pape François a réclamé des mesures concrètes et efficaces à l'ouverture de ce sommet inédit pour lutter contre les agressions sexuelles sur mineurs commises par le clergé. Le point avec John Lyndon.
En réaction à des victimes qui réclament justice, le Vatican a décidé d'agir. La crédibilité de l'Église catholique a été et sévèrement entachée en 2018 par la révélation de nouveaux scandales au Chili, aux États-Unis ou encore en Allemagne. Une vidéo avec 5 témoignages poignants des victimes a été diffusée en préalude de la réunion. Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais des mesures concrètes et efficaces, a dit le souverain pontife en donnant le coup d'envoi de cette réunion de 3 jours. Il faut du concret, a-t-il martelé, en s'écartant de son texte préparé à l'avance. Face au fléau des agressions sexuelles perpétrées par des hommes d'église et sur des mineurs, le pape François a demandé aux 190 participants d'entendre, et je cite, « le cri des petits qui demandent justice ». Les organisateurs espèrent que ce sommet donnera lieu à certaines réformes du système à court, moyen et long terme et devra permettre de retoucher des lois de l'église. Le pape François doit conclure les travaux par un discours très attendu, et ce sera dimanche.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a justifié sa décision de refuser le retour aux États-Unis de Hoda Mutana, ayant rejoint le groupe État islamique en Syrie. La jeune femme originaire de l'Alabama a exprimé des remords et souhaite rentrer aux États-Unis afin d'y être jugée. Dans un média américain, lorsqu'on lui a demandé si le statut de son père, un ancien diplomate yéménite réfugié aux États-Unis, installée en Alabama, était la raison pour laquelle la jeune femme ne pouvait prétendre à la nationalité américaine. Mike Pompeo a répondu « C'est exact, elle est peut-être née ici, elle n'a pas la nationalité américaine et n'a aucun droit à la nationalité américaine. »
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco et c'est avec Nani Talani.
Les pêcheurs sénégalais peuvent à nouveau jeter leurs filets dans les eaux réputées très poissonneuses de la Mauritanie grâce à l'entrée en vigueur d'un accord négocié entre Dakar et Nouakchott. Ils bénéficient désormais de 400 licences mauritaniennes et d'un quota annuel de 50 000 tonnes de poissons de pleine mer, dont les sardinelles, les chinchards et les anchois. En échange, le Sénégal doit verser à la Mauritanie 15 euros pour chaque tonne de poisson pêché. En plus, les pirogues seront inspectées en Mauritanie avant de poursuivre leur route jusqu'à leur port d'attache et 6% des captures seront réservées au marché mauritanien où les prix n'ont cessé de grimper depuis 2015. La Société financière internationale veut investir 6 millions de dollars dans des entreprises technologiques localisées en majorité au Kenya, au Nigeria, au Ghana et en Afrique du Sud. Selon Ecofin, l'institution prévoit aussi d'allouer une partie de ses finances à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et d'Afrique australe. Les projets sélectionnés seront orientés dans le secteur des services financiers et des biens de consommation. Pour finir, les activités de cuivre de la société minière Glencore en Afrique ont produit 410 000 tonnes métriques de cuivre en 2018, en hausse de 72% par rapport à 2017, et 38 000 tonnes de cobalt, soit une augmentation de 61%. Mutanda, sa mine la plus productive du Congo, a produit 199 000 tonnes de cuivre et 27 000 tonnes de cobalt l'année dernière. Cela représente environ un cinquième de la production mondiale de cobalt, ce qui en fait le producteur de cobalt le plus prolifique au monde.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Des dizaines d'arrestations au Maroc après des violences.
Oui, 42 supporters ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des actes de vandalisme hier à Oujda lors des matchs du championnat. Ces incidents se sont déroulés après le coup de sifflet final de la rencontre perdue par la Renaissance sportive de Berkane face au Mouloudia Club d'Oujda, comptant pour la 16e journée de la Première Ligue marocaine. Les images des scènes de violence diffusées par la presse locale montrent des dizaines de supporters envahir le terrain, des policiers blessés, un véhicule de police endommagé et des sièges et poteaux arrachés dans un stade qui venait tout juste d'être rénové. Il s'agissait du premier match disputé dans le stade d'Oujda depuis sa réouverture le 19 février, après plusieurs mois de rénovation.
La Gambie encore déboutée dans l'affaire Oloufadé.
Oui, la CAF a rendu son verdict définitif dans l'affaire James Oloufadé à l'issue du match nul face au Togo 1-1 dans les éliminatoires de la CAN 2019 en octobre dernier. La Fédération gambienne de football a déposé un recours pour contester l'éligibilité de ce joueur togolais que la Gambie soupçonnait d'être nigérian. Déboutée une première fois, la GFF a fait appel de cette décision, mais la commission d'appel de la CAF a confirmé le verdict initial en rejetant l'appel des Scorpion tout en maintenant que Oloufadé est apte à jouer pour le Togo.
Un tel étant pour financer la participation de la Mauritanie à la CAN 2019.
Qualifiée pour la première CAN de son histoire, la Mauritanie va entrer dans la cour des grands à partir du 21 juin prochain en Égypte. Pour permettre aux Mourabitounes d'aborder la compétition dans les meilleures conditions, le ministère des Sports a décidé d'organiser un gala de levée de fonds le 8 mars prochain, suivi d'un téléthon retransmis en direct de la télévision nationale les 9 et 10 mars.
NBA, le championnat de basket nord-américain, Joel Embiid, absent une semaine.
Oui, le pivot camerounais de Philadelphie qui revenait du All-Star Game sera absent absent au moins une semaine à cause d'une blessure au genou gauche. Son entraîneur Brett Brown a précisé que l'IRM a montré une blessure légère. Joel Embiid va notamment effectuer une semaine de physiothérapie. À 24 ans, il a déjà connu de multiples blessures qui ont retardé de 2 ans son arrivée en NBA et lui ont fait manquer 51 matchs de sa première saison. Ce soir, Philadelphie, 5e de la conférence S, affronte Miami.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia et Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Au Nigeria, on sait désormais pourquoi la CENI, la commission électorale, a reporté d'une semaine les élections générales qui devaient se tenir samedi dernier. Selon la CENI, le report du scrutin se justifie par le retard dans la distribution du matériel électoral, notamment en raison de la météo et d'autres raisons logistiques. Les éléments de réponse dans ce reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Le report des élections la semaine dernière a touché beaucoup de gens, en particulier les entreprises et certains électeurs qui ont parcouru des centaines de kilomètres pour retourner dans leur village d'origine pour aller voter. Les spéculations et accusations de fraude ont créé 2 scénarios au sein de la population, craignant que leur vote ne puisse compter. Mais le report ne change rien à la détermination d'Austin Aigbe.
Nous irons voter. Nous allons tous sortir pour aller voter. Les Nigériens sont déterminés pour ces élections. Même s'ils reportent ça encore et encore, nous allons toujours sortir pour voter parce que nous devons prendre possession de notre pays et c'est ça la raison de voter. Donc, mon appel aux Nigériens est de ne pas se décourager. Cela fait partie des sacrifices pour faire de notre nation un grand pays.
L'atmosphère reste cependant tendue au Nigeria et certains émettent des doutes sur le taux de participation. Jumoke Jacob Haliso est professeur d'université et membre de l'équipe du Centre d'analyse des élections.
Je pense que les gens sont anxieux et en même temps, nous souhaitons que tout se passe bien. Nous ne sommes pas certains, il y a assez d'incertitudes, d'anxiété et beaucoup de tensions en ce moment. Je ne suis pas sûre de la détermination de tous maintenant. Mais comme je viens de dire, nous souhaitons que tout se passe bien et que nos votes soient pris en compte.
La directrice du Centre pour la démocratie et le développement, qui a déployé des observateurs dans les 36 États, dit qu'elle est rassurée par les échos que son organisation reçoit de l'intérieur du pays.
Nous recevons des informations de nos observateurs. Ils nous disent que la CENI poursuit le déploiement du matériel électoral. Mais il y a aussi des informations indiquant des difficultés dans le processus. Mais ces difficultés ne sont pas aussi de nature à mettre le processus en danger.
Les responsables de la Commission électorale nationale indépendante rassurent et annoncent que l'acheminement du matériel électoral à tous les niveaux commence vendredi. Mahmoud Yakoubou est le président de la CENI.
Dès demain, toutes les activités à tous les niveaux vont commencer avec l'identification des circonscriptions à 9h le matin. Le déploiement du personnel ainsi que du matériel électoral va débuter à midi. Cela représente la dernière étape pour le déploiement au niveau de plus de 119 000 bureaux de vote et qui aboutira à l'ouverture des bureaux de vote à 8h samedi matin.
Selon la CENI, sur plus de 84 millions d'électeurs inscrits, plus de 72 millions ont déjà retiré leur carte d'électeur. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Votre émission interactive à 18h05 temps universel sur VOA Afrique. Nous évoquons l'élection présidentielle au Nigeria. Quels sont les enjeux de ce scrutin selon vous? Est-ce la sécurité, la lutte contre la corruption ou le chômage des jeunes? Que pensez-vous du report à la dernière minute de ces élections? À votre avis, c'est à 18h05 temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez appeler en direct le 001 202 205 26 33 ou nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05, temps universel.
Direction le Sénégal, où se déroule ce dimanche une élection présidentielle. Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, est candidat à sa propre succession face à quatre opposants. Le pays, ancienne colonie française et indépendant depuis 1960, est considéré comme étant l'un des plus stables du continent. Reportage de notre envoyé spécial, Salwa Jafari.
Mais le Sénégal fait-il figure d'exception démocratique en Afrique ? Ibrahima Tioub est recteur de l'université Cheikh Anta Diop.
Même si pendant les périodes de campagne électorale et de pré-campagne électorale, on a l'impression de marcher au bord du précipice, mais qu'on n'y tombe jamais. Et on finit toujours par retrouver, par faire que les acteurs se parlent.
Selon le professeur Tioub, l'histoire du pays révèle le secret de cette singularité. Parmi ceux qui y ont contribué, Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal. En prenant un socialisme modéré, pro-français, Senghor va garantir au pays une vraie stabilité politique. Il bénéficie pour cela de l'appui de la France.
On a eu Senghor, on a eu Lamine Gueye, on a eu l'échec Anta Diop, on a eu les Mamadou Dia, mais tous étaient des intellectuels et avaient une très bonne formation. Mais en même temps, la caractéristique du Sénégal, c'est les confréries et ces autorités religieuses qui ont joué un rôle fondamental dans la régulation. En réalité, après, si vous voulez, les monarchies qu'on a connues, les Tiédo, une fois que le colonialisme est arrivé, en réalité, le réceptacle des Tiédo, c'était les confréries religieuses. Si bien que les confréries jouent un rôle extrêmement important et ont joué un rôle extrêmement important. D'abord dans la période coloniale et après.
Le Sénégal, c'est aussi un cumul d'expériences. Le pays est très tôt devenu un centre de formation pour les leaders africains. Ibrahima Tioub est recteur de l'université Cheikh Anta Diop.
Également, ce rôle prépondérant joué par le Sénégal dans les formations politiques fédérales, même y compris le RDA qui était dirigé par Oufet Boigny, les sections du Sénégal y occupaient une place très importante.
Cette stabilité va-t-elle tenir à l'épreuve du prochain scrutin ? Les Sénégalais l'espèrent en tout cas. Salwa Jafari, VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les États-Unis veulent mieux se faire connaître au Cameroun dans le cadre du salon d'exposition Promote 2019. L'ambassade des États-Unis au Cameroun a organisé à Yaoundé une journée dite « journée américaine ». Certains programmes de coopération entre les États-Unis et le Cameroun ont été présentés au public, sans oublier les entreprises américaines désireuses d'investir au Cameroun. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
À l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé, le pavillon américain est l'une des attractions du jour. Le programme prévoit des échanges sur les opportunités d'études aux États-Unis. Jean-Philippe Tientu est étudiant en doctorat à l'Université de Yaoundé 1. Il est parmi les auditeurs du jour.
Je suis venu au niveau du stand de l'ambassade des États-Unis pour avoir un peu plus d'informations sur les différentes opportunités que les États-Unis offrent pour les étudiants camerounais qui sont intéressés à poursuivre leurs études aux États-Unis. Je mène des études sur des rats de laboratoire. Mon travail consiste à valoriser les plantes médicinales pour le traitement des pathologies telles que le diabète de type 2, ou l'hypertension.
L'éducation, mais aussi le modèle américain de création d'entreprises, intéresse également les Camerounais qui visitent le pavillon américain. Docteur Malek Barnabas est pharmacien à Yaoundé.
Je suis intéressé par l'entrepreneuriat, par les œuvres sociaux. Je suis membre d'une organisation de cette ambassade, Yali Network.
Quel type d'informations vous avez pu ramener d'ici, exemple ?
J'ai pu avoir des informations sur comment faire, comment avoir des bourses, comment développer des initiatives.
Le salon d'exposition Promote 2019 a connu la participation d'une dizaine d'entreprises américaines qui veulent soit nouer ou approfondir des relations d'affaires au Cameroun. Nonga Nonga est gestionnaire du stock au sein de Omvamba, une entreprise de droit américain qui soutient les petites et moyennes entreprises camerounaises à la recherche des parts de marché aux États-Unis.
Nous accompagnons les acteurs du café, du cacao
et de la noix de cajou. Nous avons déjà aidé plusieurs acteurs de l'économie camerounaise. Nous sommes déjà à près de 400 personnes. Ça fait 4 ans que nous sommes là et nous continuons à apporter de l'aide à ces acteurs-là.
Il y a 25 ans qu'une chambre de commerce américaine a été créée au Cameroun. L'américaine General Electric réalise certains travaux de barrage hydroélectrique de Natigal au centre du Cameroun. Le pays est également éligible à la GOA, la loi américaine sur les perspectives d'économies africaines. De quoi rendre satisfait le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga, à Tangana.
Au titre de la GOA, nous avons une ligne de produits diversifiés, 60 000 produits camerounais qui peuvent entrer sur le marché américain en exonération des taxes douanières. Donc c'est un avantage comparatif particulièrement important. Parmi ces produits, il y a le textile, bien sûr. Il y a tous les autres produits manufacturés, produits agroalimentaires, etc. Donc, nous avons besoin que les Américains viennent investir au Cameroun dans la transformation locale.
Un vœu que la partie américaine dit avoir bien saisi. Les États-Unis sont fiers en matière de relations commerciales avec le Cameroun, a déclaré Peter Henry Bellerin, le chef de la mission diplomatique américaine au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Cette semaine, dans Washington Forum, coup de projecteur sur le cinéma africain. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou célèbre ses 50 ans. Le FESPACO, c'est le plus grand rendez-vous du cinéma africain. Réalisateurs et acteurs se sont donc donné rendez-vous dans la capitale du Burkina Faso du 23 février au 2 mars pour présenter leurs œuvres. Quel est le rôle du FESPACO? Quelles sont les difficultés rencontrées par les cinéastes du continent? Et à l'heure du numérique, le cinéma africain parvient-il à tirer son épingle du jeu? Morgane Guériec en votre compagnie. On en discute ce jeudi à 19h temps universel.
À Ouagadougou, le festival Rendez-vous chez nous ambitionne de faire rayonner les arts de rue en Afrique de l'Ouest et de démocratiser la culture dans les quartiers populaires. Événement à vocation panafricaine, le festival se déploie pour cette 10e édition au Burkina Faso, au Mali puis en Guinée. Un reportage de Gilles Dasmahan.
Les arts de rue sont à l'honneur à Ouagadougou. Après la parade dans les rues de la capitale burkinabé, de nombreuses animations et prestations d'artistes se sont déroulées du 14 au 17 février. Et après avoir enchanté petits et grands pendant une semaine à Ouaga, le festival Rendez-vous chez nous s'apprête à conquérir le cœur des habitants de Bobo Dioulasso du 21 au 24 février, avant de poursuivre jusqu'au 10 mars à Boromo et Bamako au Mali, puis à Kankan et Conakry en Guinée.
Ce festival, s'il n'existait pas, il fallait le créer. C'est une obligation de créer ce festival-là. Parce que ça donne la joie de vivre, ça donne la joie, ça donne la vie dans les quartiers.
Organisé par l'ACMUR, l'association Art, Clowns, Marionnettes et Musique dans nos rues, le festival souhaite rendre ses lettres de noblesse aux arts de la rue et promouvoir les artistes africains. Une cinquantaine de compagnies participent à cette 10e édition, représentant 15 pays de la région.
Le festival Rendez-vous chez nous, c'est un projet de démocratisation et de décentralisation de l'art et la culture au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. C'est des spectacles pluridisciplinaires. Le festival Rendez-vous chez nous, c'est des moments de formation, c'est des moments de professionnalisation de l'art dans l'espace public, c'est des moments de rencontre. Et c'est des moments d'échange, c'est des moments de co-citoyenneté, c'est des moments de réseau pour permettre la diffusion des artistes africains à l'extérieur.
Initiative artistique, le festival se veut également éco-citoyen, avec au menu des plantations d'arbres et une distribution de poubelles auprès des populations. De quoi séduire les partenaires de l'événement.
Déjà, il y a des valeurs communes qui sont le partage, la création artistique, le fait de proposer des spectacles au plus grand nombre et à tous, et à tout public, les petits, les grands, les femmes, les hommes. L'accessibilité à tous, c'est vraiment très important. Et c'est important dans les arts de la rue parce que c'est une des disciplines qui va vraiment à la rencontre du public. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un théâtre ou dans une salle pour aller voir des spectacles. C'est le spectacle qui vient à la rencontre des populations. Et donc ça crée de la rencontre, ça crée de l'émerveillement, ça crée de la surprise, de la poésie. Et on est un peu là pour ça.
L'art partout et pour tous, tel est le credo du festival Rendez-vous chez nous.
C'était un reportage signé Gildas Mahan pour VOA Afrique.
Nous
suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Michel Joseph, à la console Joubert Altaïb. Présentation Abdourahman Dia et Raissa Gironda.
Restez connectés sur Facebook, sur notre site internet voafrique.com. Excellente suite de programme.
VOA Afrique, les infos.